Salut! Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On plonge dans le savoir-faire, puis l'histoire assez riche de la cuisine parisienne.
Oui, bonjour. On a regardé des textes qui racontent son évolution, ses lieux marquants, ses produits, ses plats classiques.
Exact. L'objectif, c'est de donner un bon aperçu de cette gastronomie mondialement connue, là, des cuisines royales jusqu'aux petits bistrots sympas, puis même les produits qui poussaient juste à côté de Paris.
Absolument. On peut dire que la gastronomie parisienne, mais elle a vraiment connu son apogée au 19e siècle. Son influence était mondiale.
Ah ouais?
Mais ça remonte à plus loin, tu sais. Le lien avec la royauté, les cuisiniers d'Hircourt, on pense à Vatel, mettons, puis ses festins incroyables à Vaux-le-Vicomte. C'est un peu là que les bases du luxe à la française ont été jetées.
C'est fou pareil. Puis quand on parle de Paris, il y a des noms de restos qui viennent en tête tout de suite, hein? Maxim's, Le Grand Véfour,
Des classiques.
puis la Tour d'Argent. Faut parler du fameux canard au sang. En 2012, ils en avaient servi plus de 1,1 million, numéroté en plus. C'est pas rien.
Non, c'est incroyable. Puis faut pas oublier l'ambiance des brasseries, surtout à Montparnasse, la Coupole, la Closerie des Lilas, le Dôme. C'était plein d'intellectuels, d'artistes.
Oui, une autre époque.
Il y a aussi des lieux vraiment chargés d'histoire. Le Bouillon Chartier, par exemple, qui est classé monument historique. Ou Angelina, où Coco Chanel aimait son chocolat chaud, paraît-il.
Intéressant, ça.
Puis même plus récemment, la Télèque de Joël Robuchon. Ça montre bien que cette tradition d'excellence, ben, elle continue.
OK. Mais au-delà des grands noms puis des restaurants chics, c'est intéressant de regarder les produits locaux. On pense pas forcément terroir quand on pense à Paris.
Ben non, mais détrompe-toi, il y avait une centaine de fromages juste dans la région. Le Brie, évidemment, ça vient de là. Le Coulommiers aussi.
Le Coulommiers moins connu, peut-être.
Un peu moins, oui. Puis le Fontainebleau, une texture hyper légère, parfaite pour les pâtisseries, on dit. Par contre, certains, comme le Brie en pot, sont devenus super rares, presque disparus.
Ah, c'est dommage, ça.
Puis le fameux champignon de Paris. Savais-tu que c'est la Quintini, le jardinier de Louis XIV, qui a commencé à en cultiver vers 1670?
Non, déjà là.
Oui, mais ça a vraiment boomé au 19e siècle. Un certain Chambry a eu l'idée d'utiliser les vieilles carrières sous Paris.
Ah, c'est là que ça se passait, dans les carrières.
Exactement. Le vrai champignon de Paris poussait là sous terre. Mais bon, les travaux du métro ont un peu tout chamboulé, puis la production est partie ailleurs.
Fait que aujourd'hui, le champignon de Paris vient plus vraiment de Paris.
La plupart du temps, non, mais il y a encore quelques producteurs passionnés, comme Grégory Spinelli en banlieue, qui les cultivent à l'ancien dans des caves sur du calcaire. Paraît que le goût n'est pas comparable. Le vrai de vrai.
Fascinant.
Puis c'était pas juste les champignons, là. Les cerises de Montmorency. Au 19e siècle, les gens louaient les arbres pour les manger direct dessus.
Ah, pas pire.
Il y avait les asperges d'Argenteuil, les prunes Reine-Claude de Chambourcy, les carottes de Croissy, même des pêches qui poussaient sur les murs à Montreuil. C'est un immense jardin autour de la ville, en fait.
Incroyable. Bon, puis côté plat, maintenant. Viande, charcuterie. Le jambon de Paris, ça c'est connu. Le fameux jambon beurre, ou dans le croque-monsieur.
Oui, un incontournable. Mais il y avait aussi le saucisson de Paris à l'ail et aux épices. Le boudin noir aussi, une spécialité. L'escalope parisienne, panée avec des champignons.
Ah oui, puis l'entrecôte de Bercy, avec sa sauce au beurre et échalote. Le mireton de bœuf aussi, pour passer les restes de pot-au-feu. Des plats souvent assez costauds.
C'est ça. La volaille était réputée aussi, avec des races comme la poule de Houdin, déjà appréciée à la cour. Puis dans les plats typiques, ben la soupe à l'oignon gratinée, évidemment.
Ah, la classique.
La matelote d'anguille au vin rouge peut être un peu plus surprenant aujourd'hui. Puis le croque-monsieur. La légende dit qu'il serait né sur le boulevard des Capucines. C'est devenu le roi du bistrot.
C'est clair. Puis pour les desserts, on peut pas passer à côté. La baguette parisienne, c'est un symbole mondial. Mais il y avait des pains plus locaux, comme le pain Brière, le pain Vexin.
Exact. Et les pâtisseries, ouf! Le Saint-Honoré, la tarte Bourdaloue, l'opéra, les financiers, le millefeuille.
Que des bonnes choses.
Tellement. Plusieurs de ces classiques, on les doit à Marie-Antoine Carême, un chef légendaire. Il maîtrisait la pâte à choux comme personne. Ah, et la brioche de Nanterre aussi, faut pas l'oublier.
Tout un patrimoine sucré. Puis pour boire avec ça, le vin?
Oui. Figure-toi qu'au 18e siècle, le vignoble autour de Paris était le plus grand de France.
Carrément.
Le plus grand? À Paris?
Bien, autour de Paris, Montmartre, la banlieue, bon, faut dire, la qualité était inégale. Ça allait du vin servi à la cour jusqu'à la piquette d'Argenteuil, qui n'avait pas super bonne réputation. Mais c'était énorme économiquement.
Symbolique, surtout. Puis on est proche de la Champagne en Seine-et-Marne. Ça se sent.
OK. Et la bière?
Ah, la bière. Après la fermeture de la brasserie Golia dans les années 60, on aurait pu croire que c'était fini. Mais pas pantoute.
Ah non?
Non. Depuis 2012 environ, il y a un vrai renouveau. Plein de microbrasseries qui ont ouvert, comme la brasserie de la Goutte d'Or. Ça brasse local à nouveau.
Super ça. Un beau retour des choses.
Donc, en résumé, on voit une richesse assez incroyable. Hein? La cuisine parisienne, c'est vraiment un mélange. Une histoire prestigieuse, des produits locaux qui ont du caractère, même si certains sont oubliés, des plats de bistrot iconiques, puis des pâtisseries super fines.
Exactement.
Puis ça montre aussi une capacité à toujours s'adapter, se réinventer.
C'est vrai que c'est intéressant de voir comment des trucs comme le vin ont pas mal disparu à grande échelle, alors que la bière artisanale revient en force. Ou comment la culture du champignon de Paris s'est complètement transformée.
Tout à fait.
Ça amène à se demander, tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Quelle sera la prochaine surprise de l'identité culinaire parisienne? Quel produit oublié ou quel savoir-faire un peu perdu pourrait revenir nous étonner?
Bonne question. L'histoire n'est sûrement pas terminée.